Monsieur le ministre, merci de votre intervention. Moi, j'ai été évidemment particulièrement sensible à ce que vous avez dit sur le sujet de l'énergie. Vous avez présenté un modèle qui semble redoutablement efficace et particulièrement pragmatique. En revanche, là aussi, moi, je reviens au sujet que je connais un peu mieux. On voit malgré tout sur les territoires que cette volonté d'investissement, mise en œuvre de filières entre les activités agricoles et industrielles est quand même confrontée à certaines difficultés. Alors, il n'est pas évidemment ici question de faire le procès de la réglementation, mais on voit un certain nombre de sujets qui sont sans doute des sujets bloquants et qui empêchent l'innovation de se développer. On dit par exemple qu'en France, il faut en moyenne 6 ans pour monter un projet de méthanisation, alors qu'on est sur des processus qui sont parfaitement maîtrisés sur le plan industriel, technique, sécurité, etc. etc. Finalement, qu'est-ce qui, selon vous, manque aujourd'hui pour que ce modèle que vous présentez puisse accélérer et se développer de façon beaucoup plus massive?
Ce qui manque, c'est une vraie révolution politique et culturelle. Elle vaut pour les agriculteurs, dans la modification des modèles de production. Elle vaut pour la société, dans son approche de cette durabilité, ou cette croissance sûre, comme je l'appelle. C'est pas simplement durable, c'est une croissance sûre. Elle est sûre parce qu'elle permet de créer de la richesse. Elle est sûre parce qu'en termes environnementaux, elle nous assure de sa capacité à se renouveler. Cette croissance sûre, parce qu'on a eu un débat politique qui a été conflictuel entre le développement tel qu'on l'a connu, et en particulier agricole, mais aussi économique et industriel, avec ces effets négatifs qu'on appelle en économie les externalités négatives, qui ont créé un contre-pouvoir très puissant aujourd'hui, avec des procédures qui font que, j'écoutais hier à propos de Hulot, qui disait logiquement, j'ai pas encore les alternatives, parce que ça va prendre un peu plus de temps. Et quand vous voyez que même une éolienne offshore, en Côte d'Armor, projet déposé il y a 10 ans n'est toujours pas réalisé, parce qu'il y a des résistances liées à plein de sujets, des résistances qui font que pour arriver à mettre en place une éolienne offshore, il n'est toujours pas mis d'ailleurs. 10 ans, alors, pareil, les investissements sont là, les liquidités on les a, mais la capacité à faire, on ne l'a pas. Donc il faut aussi qu'on redédramatise tous ces débats. Parce qu'on reste avec ceux qui s'opposent à tout ça, avec les mêmes schémas que ce qui les a motivés il y a 15 ou 20 ans, quand il y avait véritablement des problèmes de pollution. Et on est complètement bloqué. Alors, il faut simplifier, il faut réduire les délais, ça je pense que c'est très important. Moi je l'ai fait dans l'agriculture sur les établissements classés, on a essayé de simplifier tout ça, on a réduit les délais, on a mis en place aussi des formes de guichets uniques pour éviter que le porteur de projet aille voir telle administration pour tel problème, telle autre administration, et à chaque fois c'est le même projet qui est obligé de déposer avec 2,3 mots en plus, ça devient insupportable. Donc là il faut qu'on réduise ces délais, bien sûr. Et culturellement et politiquement, c'est pour ça que c'est très important. Il y a un besoin aussi de décoincer, de débloquer les compteurs qui sont restés complètement bloqués. Je voyais tout à l'heure, je me disais en venant là, vous avez l'histoire du glyphosate. Le glyphosate, si on fait le procès de Monsanto, oui, il faut aller à l'interdiction. Si on regarde le projet agroécologique, couverture des sols, sujet d'éviter de triturer, de labourer les sols, de les malaxer, de les tasser, on peut encore avoir besoin de glyphosate. Pas pour longtemps d'ailleurs, mais on peut en avoir besoin. Mais la question qui est posée politiquement aujourd'hui, c'est même pas de savoir dans quelles conditions on peut en avoir besoin et pour quel objectif de modification de modèle, c'est vous êtes pour ou vous êtes contre. Vous êtes pour, ça veut dire que vous êtes pour Monsanto, mais vous êtes un salaud. Vous êtes contre, vous êtes un récolo. Et bien on en est là. Et incapable d'en bouger, parce que moi j'ai eu beau me fâcher 10 fois, avoir envie de foutre des tartes à tout le monde, mais je. Voilà, on me dit toujours, alors vous êtes pour ou vous êtes contre. Je veux dire, moi je suis ni pour ni contre, j'en ai rien à faire au fond. Moi ce que je veux, c'est changer nos modèles de production, favoriser la photosynthèse. Rien que de poser ce débat-là de cette manière-là, on est pratiquement bloqué. Vous imaginez ce que c'est quand c'est un projet avec des recours qui se multiplient à chaque fois que c'est. Donc c'est culturel et politique au fond.
Donc je travaille pour l'UNM, pour la région Grand Dieppe, et pour l'industrie chimique également, pour la Normandie.
Ah, vous êtes mal barré, moi.
Merci, nous sommes d'accord, j'ai plus de questions. Non, donc le biosourcé, effectivement, je pense que aujourd'hui, le manque de vision et de concertation entre des grands secteurs comme l'agriculture et la chimie fait que certaines initiatives peuvent résoudre ou apporter des débuts de solutions à ces sujets qui sont, à mon avis, l'industrie de la chimie future. Le biosourcé. Et en même temps, la chimie actuelle fabrique des phytosanitaires. Donc si on ne prend pas cette logique, enfin mon sens, de façon intégrale, sur la perte d'activité de certains chimistes, mais des compensations, enfin de nouveaux produits et de nouvelles ressources pour la chimie à venir, donc l'industrie chimique à venir, on arrive à avancer, mais on avance sur un cas, je pense aux chaussures de sport Arkema qui sont faites sur de Griezmann qui sont faites avec un produit végétal. Oui, c'est un produit, mais on n'a pas amené ça à une réflexion globale. Et je pense qu'aujourd'hui, notre marge de progrès serait de mettre deux mondes qui s'ignorent, l'agriculture et la chimie, sur des sujets de recherche communs.
Alors nous, on a essayé de combiner ces deux choses-là. On l'a fait avec ce qu'on appelle les certificats d'économie phytosanitaire, qui oblige les vendeurs à réduire leur nombre de ventes de phyto et qui leur donne la possibilité d'acheter des certificats lorsqu'ils trouvent des alternatives. Le biocontrôle, c'est-à-dire l'utilisation de mécanismes naturels pour pouvoir lutter contre les phytosanitaires, je viens de lire ce matin dans l'Ouest de France, d'ailleurs il est sympa, le gars c'est Biosmose en Bretagne, qui a trouvé un substitut au glyphosate. Dans ce qu'on appelle la stratégie du biocontrôle. Je n'ai pas regardé quelle était la molécule active qu'il avait, mais. Et alors il dit dans l'article que je l'avais soutenu, mais que l'ANSES aujourd'hui n'a pas répondu à son obligation d'autorisation de mise en marché. Mais donc si on veut effectivement éviter qu'on supprime ou qu'on casse une industrie, il faut qu'on ouvre pour cette industrie et pour les services qui sont rendus avec d'ailleurs des nouvelles perspectives. Donc c'est ce qu'on a fait avec les certificats d'économie phytosanitaire. C'est-à-dire que. Baisser votre vente, mais si on en reste là, on met tout le monde en difficulté. Et pour, en baissant votre vente, vous achetez des alternatives, qui sont donc, vous achetez des certificats, qui vont être des alternatives, et c'est avec ces alternatives qu'on va construire la substitution des phyto, mais en même temps, de garantir aussi une activité à d'autres, nouvelles activités, qui vont pouvoir se substituer aux activités phytosanitaires. Deuxième point, vous prenez l'exemple du biosourcing, le chanvre, le lin, vous êtes en Seine-Normandie. Le lin. J'avais été visiter une coopérative qui a été lancée sur la production de produits biosourcés sur les fils courts de lin. Je signale que les. Vous savez, les trucs qu'on pousse là, dans les avions qui sont en alu aujourd'hui, en lin, c'est, je sais plus, 30-40% de poids en moins. Donc pour les avionneurs, c'est. Mais quand je dis ça, si jamais on commence à imaginer de remplacer la totalité. Ce qui existe dans des trucs avec du lin. Là, pour le coup, la Normandie, il va falloir qu'elle soit couverte de lin partout. Bon, et ça ne suffira pas. Voilà. Alors, vous comprenez bien, non, c'est là que les filières sont très importantes. C'est là qu'aussi, on a besoin des industriels et des collectivités et des agriculteurs organisés en un groupement plus important. Parce que pour faire des rotations à des échelles qui ne peuvent pas être micro, 52, 100, 200, 300 hectares, mais macro, à plusieurs centaines d'hectares, il faut qu'il y ait une organisation qui se mette en place. C'est tout l'enjeu. Ça nécessite des agriculteurs, parce que la maîtrise de toutes ces techniques de rotation sont très importantes. Mais si je veux créer, par exemple, ne serait-ce que sur le lin, avec des potentiels d'utilisation du lin qui sont très intéressants, dans les voitures maintenant, toutes les carènes utilisent de plus en plus de lin, parce que c'est beaucoup plus rigide et beaucoup plus léger. Donc ça, c'est un vrai sujet.
On va prendre deux questions oui, en même temps, et donc ici, puis vous, et Stéphane Lefoy répondra aux deux.
Olivier Morzel, sur la cohésion des territoires, ça ne marche pas. Anciennement, région du mouvement des DDT.
Ah, oui. Bien connu de nos services.
Oui, vous avez évoqué donc, le développement du biosourcé, le développement de l'agroécologie, en rappelant qu'il y a un besoin évidemment d'innovation. qui était aussi un besoin de filière.
Oui.
Or, on a en France un problème d'organisation de filière. Vous que j'apprendrez, vous avez cité l'alimentation par exemple, qu'entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs, tout le monde ne tire pas franchement toujours dans le même sens, et c'est un euphémisme. Quelle perspective vous voyez justement sur des développements de filières où enfin tout le monde tirerait dans le même sens?
Oui. C'est bon, ouais. Benoît Long, Montréal, Nouvelle-Aquitaine, décidément, c'est le service de l'État qui s'enchaîne. Vous n'avez pas évoqué, mais c'était la durée de l'intervention qui le voulait, le sujet de l'eau, qui est un sujet de crispation croissante dans les territoires. Et je suis convaincu que le modèle que la future agriculture que vous évoquez peut permettre d'alléger ce problème-là. Je voulais aussi avoir votre sentiment sur le sujet de l'eau.
Donc sur la première, les filières, c'est notre sujet. C'est le sujet culturel et politique de la France. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je prends la forêt, c'est encore autre chose. Hein. Parce que pour arriver à mettre d'accord les producteurs de bois et les scieurs, on a perdu 80% de l'essai. Et on exporte tout. Parce que quand je suis producteur, je vends mon bois le plus cher possible. Quand je suis scieur, je veux l'acheter le moins cher possible. Donc ils ne sont jamais d'accord et donc on ne fait rien ensemble. C'est pas possible ça. Et on a réussi 3 ans. Ah, mettre à peu près tout le monde d'accord. Et encore, c'est fragile. Je crains que le fait qu'il n'y ait plus forêt marquée sur le truc du ministère, ça finisse par repartir à zéro. C'est quand même terrible, cette histoire. Hein. Bon. Ça, vrai sujet. Et c'est là qu'il faut des acteurs et industriels et territoriaux pour créer ces filières. En fait, au fond, ce qui nous manque, c'est l'implication territoriale. Je le crois. Si je regarde l'histoire de l'Allemagne, une partie de ces filières territorialisées est liée au fédéralisme et au Länder. Donc, la logique territoriale des régions dans l'investissement économique est majeure pour créer, avec ces surfaces, les capacités de mettre des outils d'industrialisation en place. C'est sûr et certain. Quand je dis les régions, et je vais plus bas, si je suis sur la méthanisation, moi j'ai créé avec Loïc Chenet-Prigent, qui est aujourd'hui le président de la région Gérard, dans la région Bretagne, sur sa ville de Liffré, un GI2E avec un méthaniseur, où toute la matière organique des exploitations agricoles, il y en avait 5 sur Liffré, va dans le méthaniseur, okay, où toute la matière verte, les déchets verts de Liffré vont dans le méthaniseur, ils produisent 30%, 32% du gaz consommé par Liffré. Un seul méthaniseur, un galette, un GI2E. Territorialement, les territoires à énergie positive, ça doit être une démarche systématique. Elle se situe à l'échelle de la commune, de l'intercommunalité, des grandes métropoles et de la région. Et je pense que là, il y a un vrai sujet pour organiser, puisqu'on est sur des territoires, ces filières, et là, il y a une implication absolument nécessaire des territoires, au sens de l'action publique dans les territoires, avec les industriels, avec les producteurs, et c'est comme ça que ça va marcher. Ce qui nous manque, c'est ça. Donc, il ne faut pas hésiter, quand vous êtes dans les directions décentralisées, déconcentrées, à y aller. Il faut prendre ça en charge. Sur des bassins forestiers, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Comment je transforme? Eh bien, il y a là le moyen d'avoir des effets de levier. Sur l'eau, la vraie question qui est posée, c'est vrai, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on remue les sols dans tous les sens, on fait évaporer une grande quantité d'eau des sols. Donc, la première stratégie qu'on doit avoir pour préserver l'eau, c'est de préserver l'eau qu'il y a dans les sols. Ça, à mon avis, parce qu'on ne raisonne que je construis des cuvettes ou des bassines ou des lacs inerts, c'est-à-dire des endroits où je stocke l'eau. Mais si on a une sécheresse qui arrive sur le printemps et qui va jusqu'à l'été, comme souvent dans le sud-ouest, et qui fait que les terres sont complètement asséchées, parce que quand elles ont été retournées au printemps et qu'il n'y a pas d'eau, après, il n'y a plus rien. Donc la stratégie de la couverture des sols, la stratégie de la protection des sols et de l'eau qu'il y a dans les sols, c'est déjà une stratégie essentielle. Plus, bien sûr, des éléments liés au stockage, hein, je ne le conteste pas, mais on ne peut pas dire « je résous tout mon problème avec du stockage ». Tant et si bien d'ailleurs que dans l'eau d'aujourd'hui, c'était lors d'une IRSTEA, a fait le constat que même avec des lacs et des retenues collinaires, quand il n'y a plus du tout d'eau, il n'y a plus d'eau non plus dans les
dans les lacs et dans les réduits polymères. De toute façon, ça ne sert à rien. Donc, c'est une double stratégie. Oui, au stockage, je connais, mais c'est pas. On ne peut pas raisonner qu'avec ça. Parce qu'on va se tromper, encore une fois. Et alors, on fait de l'investissement public, de la dépense publique, parce qu'il faut y aller, ça ne peut pas se faire sans de la dépense publique, et au bout du compte, ça ne résout pas forcément le problème. Donc, c'est la combinaison des deux qu'il faut avoir. Préserver d'abord l'eau qui est dans les sols, quand elle est tombée en hiver. Et les labours de printemps, ça je le dis franchement, c'est une connerie, à ce titre. C'est quand vous labourez en printemps, que vous versez après, que vous semez après, et puis qu'il n'y a plus d'eau après, il n'y a plus rien du tout. Hein. Tout est évaporé. Tout a foutu le camp. Alors, où vous êtes l'Andes avec je pompe dans la nappe et j'arrose, donc là, il n'y a aucun souci. Mais quand vous n'avez pas ça, là, il y a du souci. Donc, la première des stratégies, c'est de ne plus accepter ces labours de printemps. Je veux bien encore une discussion sur les labours d'hiver, ils ont peut-être besoin. Là, je. Mais le labour de printemps, dans toutes les zones du sud-ouest de la France, en dessous du bassin de la Loire, franchement, c'est catastrophique. Catastrophique. De la même manière que sur les vignes, il faut arrêter avec cette idée que pour avoir une vraie vigne, une belle vigne, il ne faut pas d'herbe entre les rangs et les cèpes de vigne. Ça, c'est une vue de l'esprit. Alors, ou on fout de l'herbicide, ou alors on fait du travail de désherbage mécanique. Ben, franchement, il y a mieux à faire. Moi, on a créé un super beau gilet de zone en Languedoc-Roussillon. Il s'appelle les enherbeurs. Je vous invite à rencontrer des enherbeurs. Pour les autres, vous en rencontrez souvent pour les enherbeurs. Mais les enherbeurs, pas souvent. Ben, allez voir le gilet de zone des enherbeurs, parce qu'ils ont commencé avec de l'herbe. Maintenant, ils sèment du seigle. Ils utilisent la paille pour faire des mulches. Le mulch étant avec un objectif d'éviter justement l'évaporation de l'eau du sol. Bon, ben oui, mais ça c'est des stratégies. Ça coûte pas cher en plus, hein. Ça peut rapporter. Bon, cette fois-ci, j'y vais.
Bon, merci.